création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. C'est l'histoire de son amie. Elle veut comprendre, sentir l'origine, l'identité, la mémoire, la transmission. Comment son histoire vient cogner la grande histoire en proie aux forces toutes puissantes du pouvoir, des conquêtes, des guerres. Elle a écouté l'histoire d'Hélène, parcouru celle de l'Indochine, sous l'occupation française, et puis celle du Vietnam, depuis la nuit des temps. Elle a écouté les nourritures célestes d'Hélène, Marguerite Duras, Boris Cyrulnik. Elle a reniflé, écouté les nourritures terrestres d'Hélène, la cuisine, le jardin. Un jour, sa main a dessiné un lotus, du genre Nelumbo. Elle en a parlé à Véronique. Elle dit « Et nous sommes toujours là, dans nos cuisines, champs d'amour, à continuer le monde. » La rivière des parfums, Laetitia Biaggi, Véronique Lamandour, création On Air.
L'obscure harmonie qui existe dans les affaires humaines fait paraître quelquefois dans les événements de frappantes conjonctions. Et je crois bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une de ces coïncidences. La fête du Tête, célébrée par les fils du noble, intelligent et fidèle peuple annamite, vient justement au moment où se dessine la victoire définitive du Parti de la Liberté contre ceux qui ont prétendu asservir les autres.
Ici Radio Saigon. Ici Radio Saigon. Radio Saigon, la voix de la France en Extrême-Orient, émettant sur 16 mai 31, soit 18 393 kilocycles. Ici Radio Saigon. Voici notre émission quotidienne. L'Indochine parle à la France. Ici Radio Saigon. Au cours de notre émission de ce soir, vous pourrez entendre, après nos informations, notre éditorial. À 23h50, notre chronique aujourd'hui en Indochine. À 23h55, notre chronique des troupes françaises d'Extrême-Orient. Au cours de cette émission, vous pourrez entendre quelques messages familiaux. Ici Radio Saigon. Voici tout d'abord notre bulletin d'information.
Moi, en militaire, moi, pas besoin galop, soutez-moi du riz.
Les rebelles ont perdu 162 tués, 256 prisonniers. Enfin, 12 prisonniers ont été libérés par nos soins.
Allô, Paris,
vous entendez bien?
Allô, Paris, répondez-moi. Vous entendez bien?
Allô Paris.
Allô Paris.
Vous entendez bien?
Radio Française vous parle.
Vous donne les dernières nouvelles de la soirée.
Doit-on continuer?
Répondez-moi. Répondez-moi.
Mon cœur brûle dans cet enfer de mots. Il était une fois. Mais pourquoi cette foi fragile? Cette foi cassante? Où les choses étaient mal habitées. Il était une fois.
Hippocampe, vie, fantôme, mémoire, chagrin, flou,
la guerre,
ne pas exister,
passé,
présent,
les histoires,
futur,
théâtre,
l'histoire,
joie,
les corps,
le champ de bataille,
existence,
l'expérience,
nous sommes des passants,
pourquoi,
transmission,
comment,
nous sommes
temps,
des passants,
soldats,
culture,
enfance,
les
quatre,
autres,
identité,
mouvement,
la parole,
mort, vivre,
orage, survivre,
enquête,
conscience,
la boue,
éthique,
conduire, question,
trouble cyclonique,
écoute,
de l'univers,
métaphysique,
possible,
dislocation,
s'étoiler,
lumière,
résistance.
Nous ne dirons pas ici l'histoire, nous dirons ici l'univers. Ici l'univers.
La poésie est un art, la politique en est un autre. Qu'on le veuille ou non, le monde est l'œuvre des penseurs et des poètes. À l'origine de toute réforme, de toute révolution, la lumière de l'esprit brille comme une aurore ensoleillée. En Asie, poésie est synonyme de sagesse et de paix. Le Vietnam a été au cours de sa longue histoire à l'école du poète.
Pendant la colonisation française, il y a eu des soldats français qui ont eu des relations avec des femmes vietnamiennes. Et de cette relation sont nés des enfants métis. La plupart du temps, ils n'ont pas été reconnus par leur père français.
Dit et jugé que Paul Eugène est né à Haïphong le 10 novembre 1900, de père et de mère inconnus, et que, vu son origine à l'égard de son père, il est français. Devenu français par jugement au tribunal de Haïphong le 3 août 1927. Jugement retranscrit en entier sur les registres de l'état civil européen de la ville de Haïphong, sur les registres de naissance de l'année 1900, archives coloniales.
Mon grand-père est né d'un homme et d'une femme, une femme vietnamienne et un homme français. Un soldat ou quelqu'un qui était... On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas qui il était, en fin de compte, cet homme. J'ai entendu dire dans ma famille que c'était quelqu'un qui avait une position assez importante dans l'administration française à l'époque au Vietnam. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu reconnaître cet enfant naturel. Puisque, je suppose, c'était une rencontre fortuite, je pense, puisqu'il n'était pas marié avec cette femme-là. Mais ce que je sais, c'est que mon grand-père, donc qui était métis, savait qui était son père. Et il lui a demandé d'être reconnu. Et il l'a refusé. La mère, je ne sais pas qui est sa mère. On a toujours dit qu'il était orphelin, en fait. On ne sait pas d'où il venait. Et donc, à l'époque, on donnait à ses enfants des prénoms. C'est pour ça qu'il s'appelait Paul. Paul, comme nom de famille... Et comme prénom, à cette époque, c'était Eugène.
Paul Eugène, 1m57, cheveux noirs, yeux marrons, tatouage multiple sur le bras gauche. Naissance 10 novembre 1900 à Haïphong, région du Tonkin. Métier, mécanicien, incorporé au régiment des tirailleurs tonkinois le 15 septembre 1915 comme engagé volontaire pour la durée de la guerre. Arrivé au corps et tirailleur 2e classe le 10 jours. Le 28 septembre, embarqué pour la France. Débarqué pour la France le 6 novembre 1915. Nommé brigadier, non spécialiste, le 21 mai 1916. Sergent, le 23 janvier 1917. Passe au dépôt de Marseille, le 27 juin 1919. Nommé ouvrier spécialiste, le 21 janvier 1920. 26 juin 1920, départ de Marseille. Débarqué à Haïphong le 3 août 1920. Permission de 135 jours.
Et donc quand il a rencontré ma grand-mère qui était déjà enceinte d'un autre homme qui était vietnamien, il a reconnu cet enfant qui n'était pas le sien. Ben, sûrement il a dû comprendre que C'est la seule chose qu'il pouvait faire en tant que fils non reconnu, n'étant pas le père, mais reconnaissant un fils qui n'avait pas de père non plus. Donc c'est beau quand même, je trouve. Mon père faisait partie de ces écoles qu'on appelait les enfants de troupe. Il en était très content, d'ailleurs, parce que c'était là où il pouvait avoir un statut, quoi, d'être reconnu, reconnu français, très important. Où j'ai voulu savoir l'histoire de mon père, je l'ai interviewé pendant quelques temps et mon père est décédé très vite après. Et ces dernières années, j'ai essayé de retrouver ces documents sur ces personnes pour comprendre qu'est-ce qu'il avait vécu dans cette école. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes que j'ai rencontrées qui ont connu mon père étaient extrêmement reconnaissants de cette école, comme s'ils avaient été sauvés, au fond. Bon, bien sûr, avec ce qui les rassemble en commun, quoi, c'est d'être en même temps français et en même temps vietnamien, je pense. Quand il s'est présenté à l'école des enfants de troupe, il devait avoir 11 ans ou 13 ans. J'ai entendu dire qu'il était d'une nature assez sauvage, mon père. Il avait décidé de quitter la famille et de s'engager dans l'armée. Pour avoir une éducation, peut-être pour avoir une paire de chaussures, je ne sais pas. Parce que bon, à cette époque... Bon, ben, les va-nu-pieds, quoi. Ils n'avaient pas de chaussures, quoi. Et aussi, j'imagine que, bon, d'avoir un uniforme et tout ça, c'était pas mal, non? Une éducation, une reconnaissance, tout ça. Et aussi de faire comme son père.
Le grand-père.
Il doit avoir 19 ans, presque 20 peut-être, avec son képi en militaire. Il connaissait déjà ma mère. Et on voit d'après la photo d'après, ils sont très très jeunes. Ça fait presque comme dans un rêve, presque. Quand on connaît son histoire, ça a l'air d'un homme et d'une femme, 20 ans, tout à fait tendres et amoureux l'un de l'autre. C'est bien de me souvenir de lui comme ça, en fait. Il faut savoir que notre père n'était jamais avec nous. Hein. C'était quelqu'un d'absent puisqu'il était en perpétuelle campagne de colonisation. Et en même temps, il était en prison. Mais il était en prison au début parce qu'il avait déserté de l'armée. Bon, c'était très traumatique, j'imagine, de faire ce genre de métier. C'était quelqu'un qui aussi jouait beaucoup au casino. Il aimait vivre la nuit, avoir des femmes. Et donc, il avait une deuxième femme, d'ailleurs. Et donc, au bout d'un moment, il est pas rentré à la caserne, quoi. Je crois qu'il a fait 6 ou 7 années de prison en tant que déserteur. Alors, c'est intéressant que... On met des grades, des képis, des tout ça, des uniformes, des chaussures. Puis au fur et à mesure, si t'es déserteur, clac, on t'enlève tous les galons. Et donc, il est allé en prison. Regardez, on dirait un gangster, là, non? Avec lunettes. Incroyable. Non, il pouvait jouer un rôle, ça c'est clair. Un jour, j'ai essayé de lui trouver un travail, je me souviens. Enfin, j'ai passé une audition quand j'étais jeune actrice. Une télévision et on m'a dit mais est-ce que vous connaissez quelqu'un de très autoritaire? J'ai dit comme ça, c'est sorti de ma bouche, j'ai dit oui je connais. Ah bon? Mais qui? Puis j'ai dit mon père. Mais amenez-le. Oh, j'ai dit oh là là, non, la honte. Et du coup ils ont insisté, j'ai amené mon père, j'ai dit à mon père de venir. Il est arrivé avec 2 autres Vietnamiens, comme si c'était un peu la mafia. Le metteur en scène lui a demandé de lire. Il a lu. Le metteur en scène lui a dit « On ne voit pas votre visage, donc il ne faut pas baisser la tête. » Mais dans sa façon d'être, je me souviendrai très bien, j'entendais ses pensées en disant « Mais qui considérait le metteur en scène comme un pauvre idiot ?» Qu'effectivement, s'il doit lire, il doit baisser la tête. Mais avec grande fierté, il s'est dit, voilà, je vais répondre exactement ce qu'on me demande, mais j'y pense pas moi. Et ensuite, le metteur en scène a demandé aux 2 autres hommes vietnamiens qui l'accompagnaient s'ils pouvaient aussi... ils avaient besoin de beaucoup d'Asiatiques. Et les 2 personnes ont dit « Non, non, vous parlez avec Monsieur Pataro. » Et donc, mon père a été chargé de faire tout le casting asiatique dans le 13e. Le jour de tournage, moi j'étais en train de manger ou prendre un café à la fin de la cantine de ce jour-là, et je vois arriver mon père avec tous les figurants vietnamiens ou asiatiques qu'il était venu avec. Donc ça devait être quoi, 1h de l'après-midi ou quelque chose comme ça, 1h de l'après-midi. Et donc on leur a dit, écoutez, attendez. Attendez là, je sais pas quoi. Et à ce moment-là, mon père a dit, oui, mais vous donnez pas à manger? Ben non, c'était pas prévu. Il a dit, écoutez, si vous donnez pas un sandwich ou quelque chose à boire à ces gens-là, on s'en va. Et on leur a donné un sandwich à tous. En même temps, j'étais très gênée, mais en même temps, j'étais très fière de lui. Je disais, mais enfin, c'est vrai, quoi. C'est pas une façon d'accueillir des gens. Donc, oui. Et donc je voyais que pour mon père, il a toujours vécu dans une situation de groupe d'hommes, en fait. Groupe d'hommes à l'armée, groupe d'hommes en prison. Je me souviens quand je l'ai rencontré pour la première fois, je suis allée le voir, j'avais 13 ans. Il était, je crois, à la prison de Fresnes. c'était quelqu'un qui... que je pouvais pas comprendre, en fait. Que je pouvais pas comprendre.
Et ça t'est jamais venu à l'esprit, enfin, comment dire, en étant vietnamien, de combattre contre d'autres vietnamiens?
Bon, alors, maintenant, ma fille, je vais t'expliquer. Quand j'avais 8 ans, moi, on m'a dit, vous, monsieur, venez pas ici. Vous voulez rentrer dans une école militaire? Oui. On me met dans une école militaire. On te forme déjà à l'âge de 8 ans, pendant 10 ans, pour devenir un chef de guerre. Hein, que tu te le fais bien ou mal, c'est ton affaire. Mais tu as opté pour ça, tu ne peux pas trahir. Tu ne peux pas trahir. Et, hein, comme j'ai dit, il y a deux choses. Soit tu es de l'autre côté avec les Viettes, ou alors tu es avec la France de ce côté. Donc mon origine, quand j'étais jeune, j'étais à l'école française. On m'a mis dans une école militaire pendant 10 ans.
Mais attends, tu l'as choisi ou tu l'as pas choisi d'aller à l'école militaire?
Ah, mais c'était l'office.
Tu l'as pas choisi?
Je l'ai pas choisi. C'est tout simplement le grand-père. À cette époque-là, il a vu que les jeunes, ils partaient dans les écoles en front de troupe, tout ça. Ils sont contents. Et puis il m'envoie. Il me dit, bon, ben, tu seras mieux là, tu seras mieux éduqué, tout ça. Bon, moi, j'ai dit, bon, d'accord. À cette époque, j'aimais bien l'uniforme. À 8 ans, j'aimais bien l'uniforme, le défilé. Tout ça, je dis, tiens, ça c'est bien, et tout ça. Mais seulement pendant 10 ans, j'ai mangé la vache enragée. Voilà.
Mais ce que je me souviens, c'est qu'il donnait toujours une très bonne image de lui-même. C'est quelqu'un qui se vivait comme, et sûrement il a dû le faire, quelqu'un qui était, qui aidait les gens, qui aidait en prison d'ailleurs, ou dans l'armée, parce qu'il y avait ce sentiment, j'imagine, de solidarité. Bon, par exemple, en prison, on l'appelait le Bouddha. C'était lui qui était, il était un peu leader comme ça, pour représenter les autres prisonniers, pour avoir une meilleure cantine, des choses comme ça.
10 jours de prison pendant l'hiver, ils ne te donnent pas de couverture pendant la journée. Mais seulement, ils ne te donnent pas à manger comme il faut. Alors je me suis combiné avec la sentinelle, c'est nous aussi, qui ouvre la porte pour donner de l'eau, c'est comme ça, qui coûte des merdes, et nous amener de la viande et tout le truc. Il dit, il faut que je fais gaffe, parce que si je me fais attraper, il dit, mais si c'est ton tour, nous on fait pareil. Alors lui, c'est on se met en combine avec la cuisine, ils nous ont donné de la viande et on a mangé buffet. Hein. On a buffet pour qu'il n'y a pas de trace.
Donc c'est vrai qu'il avait une façon de parler et d'être qui était très écoutée et reconnue, en fait. Il avait une certaine autorité. Je suppose qu'il a appris aussi à se faire écouter dans l'armée, puisqu'il commandait d'autres soldats.
Pour commencer, vous allez commander 45 bonhommes au combat. Terminé, envoyé à Perpète, à Terre Tahuit, là-haut, à la montagne, tout ça, tu te débrouilles. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, on te donne encore 45 bonhommes, et au fur et à mesure, tu complètes à 120 bonhommes. Et à toi, hein, de te débrouiller. Tu amènes tes gars au combat. Voilà. Ça s'arrête. Et c'est comme ça. Et moi, ça me ferait plaisir de commander les autres en revanche de ce qu'ils m'ont fait. Voilà,
Il y a une chose qu'il m'a dite, peut-être qu'il a répondu exactement ce que je voulais entendre, ou il m'a dit, en fait, quand j'avais un régiment, je leur disais jamais d'aller tuer l'ennemi, au contraire. Je dis, ah bon? Je lui dis, mais est-ce que tu as tué des gens? Il m'a dit, non, pas du tout.
Quand tu fais monter la garde de nuit avec un vrai fusil de guerre à 15 ans, hein, et fait tout noir, là, normalement à 15 ans tu tremblais. Hein, tu tremblais de froid et tu tremblais de peur aussi. Et moi j'ai pas peur. Moi ça me fait plaisir.
Quelque part en moi, j'avais une réticence de me souvenir Et je dois dire que quelque chose s'est passé. J'ai retrouvé la cassette et j'ai retrouvé la voix de mon père. Donc il est là. Il s'est dit, tiens, ben, c'est le moment ou jamais de sortir, quoi.
J'arrive, j'avais du temps. Je sors du 37 ou du 35, je me rappelle.
34.
34, disons. Bon. Ouais. À cette époque-là, la France 34. A reçu du matériel militaire des Anglais. Hein? Il y a des brodequins, il y a des trucs comme ça. Mais le minimum du brodequin, le mec, il fait 40 nœuds. Mais t'as pas le droit de dire c'est trop grand. Hein?
Ah bon.
Tu dis trop grand, tu vas 4 jours au Youp d'abord. Parce que tu dois faire comme les autres.
4 jours là.
Ouais, alors attention, au Youp, tu vas en prison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des siphons dedans pour réduire la longueur du brodequin. Et tu mets une chaussette plus grosse. Et là-dedans, avec ça, hein, dis-toi bien, à 10 ans, tu marches au pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, avec ça, t'en as marre.
Et aujourd'hui, je peux évoquer et invoquer quelque part les ancêtres. Et les ancêtres, le plus proche, c'est mon père. Bel esprit, les êtres humains en paix, les hauts et les bas de l'histoire. S'il vous plaît, allumez l'odeur des ancêtres, démontrez l'amour, aimez le don de l'héroïque. Les gens ont des nids, comme les arbres ont des racines, comme les rivières ont des sources. Le souvenir de l'ancien, le sens profond de la naissance. Buvez de l'eau pour vous souvenir de la source. À travers les âges, traverser les montagnes à travers la rivière, en méprisant le danger, en ouvrant les frontières, pour construire au nom de la famille. Rencontrer les moments difficiles, catastrophes naturelles, emprisonnement captif, malgré les dangers, la faim et la soif. Le cœur est d'argent. Protéger les montagnes et les rivières. Maintenez la culture. Le culte des ancêtres est une chose traditionnelle. Prenez soin des grands-parents. Respectez les pères, les mères. Lumière florale, bougie scintillante, sincérité, respect, gratitude, pensée et récité. La source de la vie, la gratitude du grand-père qui verse l'amour. Merci, mère, nourrir la naissance. La joie, les ancêtres, demander aux enfants de leurs enfants, visiteurs en exil dans le monde, toujours persévérer dans le sens de la paix. Chose au Vietnam, c'est qu'il y a la pièce principale, c'est une pièce qui est réservée aux ancêtres, aux morts de la famille, c'est-à-dire qu'il y a toutes les photos et des offrandes de nourriture en général, des fleurs, ça dépend. La première fois quand je suis venue au Vietnam, ma famille, mes cousins, avant même presque de me dire bonjour, je dirais, m'ont présenté aux ancêtres. Pour moi, c'était des photos, les photos de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Ils ont parlé à eux, donc c'est-à-dire qu'on s'adresse en disant, voilà, Hélène est venue vous rendre visite de France. Et les cadeaux que je pouvais apporter, ils les mettaient sur l'autel. Mais en vivant avec eux, j'ai vu qu'en fait, tous les jours, avant de manger quelque chose, en général, c'est quelque chose de rare, de... des fruits, des choses un peu précieuses, un peu bon, qui a une certaine valeur entre guillemets, est offert aux ancêtres avant. Quand j'étais petite, j'avais vu ça, j'étais intéressée par ce rituel où ma grand-mère, je me souviens, mettait de la nourriture et elle me disait. Ça, c'est pour les morts, manger avant, nous manger après. Alors je dis, mais les morts vont venir. Il fait manger la nuit, ils mangent la nuit. Ah bon, d'accord. Et donc, pour moi, je me disais, mais je croyais qu'ils allaient venir manger la nuit, je pense. Oui, il y avait un doute. Après, je regardais, donc je pensais qu'ils étaient venus manger. Pas beaucoup, puisqu'il en restait. Mais on voyait qu'il y avait un truc qui avait un petit peu... Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, en tous les cas. Et après, nous, on pouvait le manger après. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Et j'ai fait le rapport qu'en fait, dans les offrandes pour les ancêtres et pour les morts de la famille, il y a toujours de la nourriture. Mais spécialement... le jour de l'anniversaire de la mort de la personne, on cuisine exactement ce qu'il aimait. Vraiment le goût de la personne, qui était spécifique à la personne. S'il aimait, n'importe quoi, des tripes à la mode de Caen, c'est peu probable. Et ben voilà, moi si c'était ça, on va me faire ça. Un truc comme ça. Incroyable. De rechercher le goût, vraiment le goût de la nourriture de la personne. C'est vraiment intéressant. Et comme ça, on peut savoir, par exemple, ce que met ma grand-mère. Et on peut le goûter. Si elle met bien les gros pamplemousses, hop, on le sait, ça. Donc on peut goûter son goût. Penser à elle, c'est très concret en fait, hein, très concret. Ma mère, quand mon père est parti en France après Dien Bien Phu, à penser que c'était mieux pour les enfants et pour la famille de ne pas être séparés, quoi. Elle ne voulait absolument pas partir de Vietnam. Elle était très proche à sa mère aussi. Donc elle a fait un grand sacrifice en pensant que c'était mieux pour les enfants. Donc nous avons pris un bateau qui nous a emmenés à Marseille. Un mois de bateau. Et donc de Marseille, nous sommes allés à Paris. À Paris, nous habitions dans une caserne militaire. C'est un endroit très froid. On est arrivé sûrement en hiver, j'imagine. Ma mère, quand elle me racontait après, elle me disait qu'elle avait très très froid, qu'il n'y avait pas beaucoup à manger, qu'on devait faire à manger sur des petits camping-gaz. Je ne sais pas comment c'était comme endroit, mais ce n'était pas pour accueillir des familles, j'imagine. Et donc, cette première année où elle est arrivée, elle est tombée malade. Elle a eu la tuberculose, en fait. Et les enfants aussi, nous aussi, on a eu la tuberculose, une primo-infection. Et c'est à ce moment-là où, comme c'est très contagieux, on a été séparés tout de suite, ma mère et ses enfants. L'assistance publique avait une branche qui s'appelait l'œuvre Granger. Et donc... À partir du moment où on était guéri, un an après l'hôpital, on a été transféré dans des familles d'accueil. Et c'est comme ça, après un voyage en train et en deux chevaux, je me souviens, on est arrivé à la campagne. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'après-midi, rencontrer deux personnes que je connaissais pas, qui me regardait d'un air curieux, évidemment. Petite vietnamienne, jamais vue. Quelqu'un d'étranger comme moi. Et il m'avait gardé au four un ragoût, je me souviens. Ça, je m'en souviens, un ragoût de pommes de terre, un truc comme ça. Et je me souviens toujours, ils m'ont donné à manger. Par politesse, je voulais bien manger, mais en fin de compte, je ne pouvais pas manger. Ils m'ont parlé, je voulais bien répondre, mais je ne pouvais pas répondre, en fait. Je ne pouvais pas manger et je ne pouvais plus parler. J'aimais pas le goût de la cuisine française. Bon, après, évidemment, il fallait que je grossisse, donc on me forçait à manger, et je mangeais, tout était trop gras, j'aimais pas le lait, j'aimais pas tout ça. Et après j'ai appris qu'en fait, au Vietnam, on donne pas du lait de vache, en fait. L'estomac, tout ça n'est pas conçu de la même façon. Donc au fur et à mesure, je me suis habituée à manger de la cuisine française, parce que j'avais une relation avec mes parents nourriciers. Et quand ma mère est venue nous voir à la ferme, j'avais quoi, 10-11 ans, avec ma grand-mère, elles sont venues avec plein de nourriture et elles ont fait de la cuisine vietnamienne, des nems, du riz cantonais, elles ont apporté des mangues, des longanes, ils ont fait du poulet au curry et d'autres choses que je ne me souviens plus maintenant. Mais ce que je me souviens, c'était que tout d'un coup, cette mère que je ne reconnaissais plus et cette mère qui était complètement étrangère, que je ne comprenais pas parce qu'elle avait un accent vietnamien tellement fort, elle parlait si peu le français, la pauvre, que je ne l'aimais pas, quoi. J'avais peur de cette personne étrangère. Mais ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est qu'en fait, j'ai aimé tout de suite la nourriture de ma mère, une nourriture vietnamienne. Et au fond, secrètement, j'étais fière aussi parce qu'en fin de compte, mes parents nourriciers aimaient ça aussi. Soit on est nourri au sein ou on est nourri au nem, quoi. Ce que ça m'a donné comme mémoire, en fait, c'est que au niveau de la langue française, que j'ai appris, je pense, quand j'étais enfant, dans la séparation de ma mère, quand j'avais 4 ans à peu près, où je parlais vietnamien, c'est-à-dire une langue qui chante. Et je me souviendrai toujours que j'avais du mal à, justement, me relier à la langue française. Et quand je voulais lire, en tous les cas, je chantais. Je parlais plus ma langue, donc on pouvait plus comprendre. Ma mère ne parlait pas bien le français, pas comme mon père. Et donc, voilà, on ne comprenait pas, quoi. Donc, j'essayais de réapprendre ma langue au fur et à mesure. De temps en temps, quand voilà, j'avais un élan de retrouver quelque chose, d'essayer d'aller à la rencontre de ces sons qui sont dans le corps, en fait, qui restent dans le corps, qui sont là, qui sont portés par le corps. Mais moi, j'ai oublié la connexion, en fait. Le langage vietnamien, c'est un langage à tons, c'est-à-dire c'est 6 tons. Et chaque ton a un sens. Par exemple, il y a ma, 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 ma. Et tout ça, ça veut dire cheval, fantôme, maman. Et tous les mots sont comme ça. Donc en fait, c'est une langue qu'on ne peut pas apprendre d'une façon intellectuelle parce que c'est vraiment oral, quoi. C'est comme de la musique. Ce sont des papiers justement de l'administration française, ce sont des vrais documents. L'acte de décès, copie intégrale, année 2002. C'est l'acte de décès de mon père. Pataro, Paul Eugène, décès numéro 345. Le 16 avril 2002, à 15h20, est décédé 2 rue Pierre de la Fontaine, Paul Eugène Pataro, né à Hai Phong, Vietnam, le 12 août 1931, retraité, domicilié à Stein, Saint-Denis, rue Charles Péguy, fils de Paul Eugène Pataro et de Tran Thi Soan, décédé, divorcé de Vu Thi Thinh, dressé le 17 avril 2002 à 13h35 sur la déclaration de Karine Ponge, adjoint administratif des admissions, domicilié à Saint-Denis, de rue Pierre de la Fontaine et invité à lire l'acte assigné avec nous. Carmela Mar, agent administratif qualifié, office de l'état civil par délégation du maire de Saint-Denis. Suivent les signatures, mention marginale. Il y a marqué néant. Aucune signature. Et j'ai trouvé l'acte de naissance de ma mère. Vu Thi Thinh. Féminin. Né le 20 juillet 1928 à Hanoï. Nom du père Vu. Prénom Quang. Né le on sait pas. A on sait pas. Nom de la mère, Knuyen, prénom, Thi Anh, né le, on ne sait pas, A, on ne sait pas. Marié à Haïphong le 6 décembre 1954 avec Paul Eugène Pataro.
Divorcé de Paul Eugène Pataro.
Par jugement du tribunal de grande instance de
rendu
Paris.
Le 26 octobre 1984.
Certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance
le
de Saint-Maur-de-Fossé. Sous le numéro 104/99.
Nantes.
Le 26 mars 1999. J'ai pris un dossier qui s'appelle Identité. Voilà. Mais un gros dossier, là. Ouh là là, il y a des tampons, là.
Acte de mariage des parents de l'intéressé en copie intégrale, en date du 6 décembre 1954. Acte de naissance de la mère de l'intéressé en copie intégrale. Acte de naissance du père de l'intéressé en copie intégrale, mentionnant sa reconnaissance paternelle. État signalétique du père de l'intéressé. Jugement tenant lieu d'acte de naissance du grand-père paternel de l'intéressé en date du 3 août 1927, rendu par le tribunal civil de première instance d'Haïphong. État signalétique du grand-père paternel de l'intéressé. Passeport de l'intéressé délivré par la préfecture de police de Paris le 15 avril 1999. Justificatif de domicile. Consultation télématique du ministère chargé de naturalisation en date du 8 mars 2002 concernant l'intéressé et son père. Consultation écrite de la chancellerie en date du 3 mars 2003.
Voilà. J'ai pas grand-chose, je crois. C'est toujours la répétition de même chose, c'est-à-dire sa carte d'identité, son acte de naissance. Ça, c'est le livret de famille falsifié par mon père. Mon père, pour avoir cette identité aussi, et ses papiers, et ce livret de famille, quand il est venu du Vietnam, c'est lui qui a falsifié tous les papiers. Et à ce moment-là, il a décidé que Pataro serait le nom. L'histoire du nom. Quel est votre nom? Paul Eugène. Vous vous moquez de nous, c'est pas un nom. En fin de compte, comme il n'avait pas de nom de famille, il se faisait pas reconnaître. Et je crois que le type derrière lui ou avant lui, qui était un peu genre italien, lui a dit, pourquoi tu mets pas Pataro? Alors ça, c'est une version. Il y a une autre version qui est que mon grand-père, qui n'avait pas été reconnu par ce père qu'il connaissait, en fin de compte, cet homme s'appelait Patard. Donc, ils ont rajouté une voyelle et une consonne pour faire Pataro. Ce nom que nous portons dans notre famille, c'est unique. Il n'y a personne d'autre qui s'appelle Pataro.
C'est vrai.
Mon extrait de naissance, c'est Paul, Hélène, Paul. Vous êtes Paul et vous n'êtes pas Pataro. Mais je dis, regardez, mais j'ai ma carte d'identité Pataro. Non, 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 ce n'est plus valable, c'est l'acte de naissance. Mais comme il a falsifié les papiers, je suis arrivée avec une identité Pataro. Pour moi-même, je m'appelle Paul, en fait. Sur mon acte de naissance, je ne m'appelle pas Pataro. Quel est votre nom? Je m'appelais Paul. Hélène Paul. Vous vous moquez de nous, ce n'est pas un nom. Ce n'était qu'un prénom. Donc, t'es rien sans nom, quoi. On m'a conseillé de changer de nom. Donc, j'ai rechangé mon nom pour Pataro. Et donc, j'ai dû repayer, d'ailleurs. Il fallait repayer pour faire un procès, un tribunal, etc., pour pouvoir changer de nom. L'histoire du nom. Rechercher d'où on vient et pourquoi on a été transformé comme ça, quoi. C'est un arbre, le banyam, je crois que ça s'appelle. Donc c'est les graines de cet arbre. Ça c'est indien, mais je pense que bon, de toute façon le Bouddha était d'abord en Inde, et ensuite il a voyagé, de toute façon. Et c'est un arbre l'histoire, c'est qu'en fait, si tu t'assois sous cet arbre et que tu es malade, tu es guéri. Il émane des choses bénéfiques. L'arbre, en lui-même. Les feuilles, tout quoi. Ce qui dégage et aussi les feuilles. Et donc, ces graines sont enfilées pour faire ces prières bouddhistes que ma mère fait tout le temps, le matin et le soir. Et je l'ai apportée parce que je pensais à elle. Parce qu'en fait, elle fait pour chacun de nous, tous les jours. Voilà, donc ma mère a 6 enfants, donc elle en a beaucoup à faire, hein, des tours de chapelet. Mais elle fait ça, c'est formidable. Elle compte comme ça. Alors pour moi, c'est pas une pratique que je fais en réalité, mais c'est vrai que ça fait partie de... sûrement de mon identité aussi. C'est quelque chose qui se transmet d'une façon inconnue d'ailleurs, mystérieusement inconnue. Ce que voulait cette femme, ma mère, c'est de nous assurer à nous, ses enfants, qu'à aucun moment de notre vie, quoi qu'il arrive, les événements les plus graves, la guerre par exemple, on ne serait pris de court. Du moment qu'on avait une maison et notre mère, on ne serait jamais abandonné, emporté dans la tourmente, pris au dépourvu. Il pouvait arriver des guerres, des isolements dus aux inondations, à la sécheresse. Pour nous, il y aurait toujours eu une maison, une mère, à boire et à manger. Ça, j'ai toute ma famille sur moi. Un bracelet en jade, un autre bracelet en jade. Ce sont des bracelets que les femmes vietnamiennes portent. Vraiment, quand on le met, on aplatit la main d'une façon où c'est vraiment douloureux de mettre ce bracelet. Le jade, en fait, se transforme au fur et à mesure par rapport à comment tu es. Je crois que le jade, c'est porteur d'un pouvoir, quoi. Comme toutes les pierres, d'ailleurs. C'est une pierre qui est éternelle, quoi. Ça ne bouge pas, à part de l'intérieur, à part quelque chose qui s'affine. Je ne sais pas si c'est la chaleur, si c'est la... Et aussi les différentes couleurs, en fait. Et comme ça, là, au fur et à mesure du temps, parce qu'on le garde toute sa vie, on peut voir la différence. C'est quelque chose qu'on offre en fait. Mais bon, il faut pouvoir passer le passé, donc c'est douloureux.
Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Mais cet écho qui roule tout le long du jour, cet écho hors du temps d'angoisse ou de caresse. Sommes-nous près ou loin de notre conscience? Nous avons vidé la vie à coups de questions. Qui on est? Où on est? Où va-t-on? À toutes ces questions, je donne une réponse. Mais pour l'accepter, il faut avoir le courage, je dirais même le culot, d'exister. Au fond, si vraiment vide il y a, pourquoi ne pas en profiter pour y mettre quelque chose? Pourquoi ne pas l'utiliser à exister? L'homme est trop beau pour qu'on le néglige. La rivière des parfums, avec Hélène Pataro et la voix de son père retrouvée sur la cassette. L'histoire racontée est traversée par les musiques du film de Peter Brook, The Mahabharata, dans lequel Hélène Pataro a joué. Merci à Roger de Cater et son restaurant Ungien, et à Wuong, la cuisinière, pour la recette des nems en vietnamien. Le texte final lu par Hélène est extrait de La vie matérielle de Marguerite Duras. Merci aux lumières dans l'ombre et merci aux ancêtres. Archivina, Christelle Rousseau et Viviane Lefebvre. À la prise de son, Delphine Baudet et Frédéric Quéroux. Au mixage, Claude Nior. Création R, Irène Omelianenko et Shushan Djergaian. Ici s'achève La rivière des parfums, une pièce de Laetitia Biagi, réalisée par Véronique Lamandour.
Cette émission est disponible en podcast un an et réécoute à vie sur le site de France Culture. La semaine prochaine, mercredi à 23h, Oliver Hoechst explore l'univers de Kurt Weill à Paris en compagnie de Fantomas. Jeudi, sur les traces de Rimbaud en Abyssinie, Illumination par Stéphane Krasniansky.